l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, 12h à la pendule de Présence en ce vendredi 13. Eh bien, comme tous les vendredis, j'ai le plaisir de partager cette heure que nous allons passer ensemble. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h. Dans le Présence Midi, au sommaire de cette émission, dans quelques instants, nous allons découvrir la marque Blanc des Pyrénées. C'est une marque qui propose des produits laitiers en faisant une vente équitable avec les producteurs. Ce sera donc la chronique verte de Benoît Guillard. Nous aurons le coup de cœur en librairie avec le frère Martin de l'abbaye de Tournai. Nous proposera en ce temps de carême de faire quelques exercices, des exercices bien sûr spirituels et de bénédictins. C'est un livre de Anselm Grün qui nous proposera de découvrir. La chronique solidaire de Anne Deslois nous proposera, elle, d'avoir une réflexion sur le carême. Elle sera en compagnie de sœur Geneviève. Et puis, aux alentours de 12h50, ce sera la découverte d'un auteur qui a écrit sur les Pyrénées. Catherine Albrecht nous proposera de découvrir un ouvrage de Anne Lister, d'origine anglaise. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble et que je vous propose de débuter avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis au Salon de l'agriculture à Tarbes et je suis avec Damien Pivot. Damien Pivot, je souhaitais vous le faire connaître, chers auditeurs. Il est directeur d'une marque bien connue sur notre Pyrénées, qui est le Blanc des Pyrénées. Donc, il m'a fait l'honneur de bien vouloir répondre à mes questions. Peut-être pour commencer, quelques mots sur la marque Blanc des Pyrénées. Elle est née en 2018. Il nous dira un petit peu quelle est son origine et quels sont le nombre des éleveurs qui sont autour de cette marque. L'objectif était clair à l'époque, c'était de produire et vendre un lait local, équitable, traçable et consommé sur le territoire. Bonjour Damien, merci de me recevoir à l'occasion de ce salon d'agriculture. Peut-être pour nos auditeurs, nous éclairer un petit peu comment est née l'idée de la marque Blanc des Pyrénées.
Alors bonjour, merci de pouvoir nous permettre de parler du Blanc des Pyrénées. Le Blanc des Pyrénées est né d'une discussion entre éleveurs laitiers sur le département des Hautes-Pyrénées, dont Thierry Ségouffin, qui est éleveur laitier à Guizerix, qui s'est dit en période de crise laitière, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir un minimum. Donc là, il a décidé de créer un collectif, 18 associés, créer une société avec une marque très territoriale, Blanc des Pyrénées, avec un fonds sur le Pic du Midi, et très fort. Et donc voilà, ça fait 18 éleveurs laitiers présents sur la société qui ont investi en capitaux propres.
Alors justement, excusez-moi Damien, en quoi justement cette marque a-t-elle permis aux producteurs de reprendre leur destin en main ?
Cette marque tout simplement permet d'acheter du... Alors on achète le lait de nos éleveurs de lait cru Et ce lait-là, il est transformé en divers produits, des produits transformés comme des yaourts, du beurre, de la crème, tout ce genre de produits. Et ensuite, ce bénéfice qui est généré par la vente de ces produits est reversé à tous les éleveurs sur tous les volumes en termes de primes sur toute l'année.
Pour nos auditeurs, pour être très clair, c'est une marque entre guillemets locale. Et justement, qu'est-ce qui distingue le blanc des Pyrénées des grandes marques laitières industrielles ?
Alors, elle est locale et elle est surtout équitable. Parce que le principal, ce qu'il faut retenir, vraiment, c'est équitable. C'est quand j'achète un yaourt ou une brique de lait du blanc des Pyrénées, il y a une partie de ce prix-là qui est reversée à nos éleveurs, qui sont bien identifiés et bien tracés.
Par rapport à votre cahier des charges, est-ce qu'il y a un cahier des charges précis en termes d'alimentation des vaches, de traçabilité et en termes de qualité du lait ?
Alors oui, bien sûr, pour un collectif et une marque telle que le Blanc des Pyrénées, c'est indispensable d'avoir un cahier des charges. Donc on a une alimentation sans OGM et sans huile de palme, ce qui permet aussi d'avoir un lait de qualité, mais aussi tout ce qui est fourrage doit être issu à 70% de l'exploitation, ce qui permet la rotation des sols aussi sur les exploitations. Et on a décidé de mettre un cahier des charges qui est quand même relativement accessible par tous nos éleveurs pour pas laisser certains éleveurs sur le bord de la route.
Pourquoi c'était important, si important, de construire une marque entre guillemets 100% locale ?
C'était très important parce que tout simplement, on était très attaché à notre territoire, les Hautes-Pyrénées. On a sondé, on a vu qu'il y avait une réelle demande et un fort attachement à la marque qui fait que maintenant, quand les gens achètent le blanc des Pyrénées, eh bien, ils sont de suite fidélisés.
Quelques mots sur l'économie de la filière. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, mais vous l'avez déjà un petit peu suggéré, cette initiative permet de mieux rémunérer ses producteurs ?
Alors tout à fait, maintenant ça fait 8 ans qu'on est là, on est toujours là, le principe est toujours le même. Alors oui, c'est une économie, enfin surtout un marché, le marché du lait c'est un marché à dents de scie. Ça peut aller très bien une année comme pas du tout aller bien sur l'année d'après. Donc nous on est là juste pour faire le piston entre de cette rémunération pour essayer d'aller au plus juste et à la rémunération la plus juste pour nos éleveurs.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est 18 éleveurs engagés. Est-ce qu'il y a une perspective d'accroissement du nombre ou aujourd'hui c'est suffisant par rapport au marché que vous avez ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc, cette question-là, en fait, nous, ce que l'on veut, c'est valoriser le maximum de lait cru déjà exploité aujourd'hui, donc 5 millions de litres de lait. Aujourd'hui, on en transforme 1,5 million, entre 1,5 million et 1,7 million. Quand on arrivera à 90% de ces volumes-là, on se posera la question de, oui, qui on fait rentrer ou, bien sûr, on laissera personne sur le bord de la route.
Alors, Damien, selon vous, est-ce qu'on peut dire que ce modèle économique est viable pour l'avenir de l'élevage laitier dans les Hautes-Pyrénées ?
Alors, si ce n'était pas viable, on serait pas là. Je ne serais pas là en train de vous parler. Et d'autant plus que ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc s'il y a un réel intérêt au blanc des Pyrénées, c'est maintenant. Et il n'y a pas de raison qu'on ne soit plus là dans une dizaine d'années.
Peut-être nous dire deux mots sur la gamme telle qu'elle était au départ et comment aujourd'hui elle évolue.
Alors la gamme, c'était un produit, c'était du lait UHT à la base. On a essayé de faire assez simple pour aller assez vite. On est resté pendant 4 ans sur du lait UHT, transformé chez Alons. Et ensuite, on s'est dit, ben voilà, maintenant qu'on arrive à un seuil maximum de volume sur notre territoire, développons notre gamme. C'est pour ça qu'on est allé chercher un prestataire de qualité dans le Pays Basque, la laiterie Bastidara, avec qui on a travaillé des recettes, et ce qui nous a permis de sortir une gamme de yaourts. Et ensuite, on est allé plus loin dans la démarche. On s'est dit, ben avec du lait, on a de la chance de pouvoir faire beaucoup de produits. On a transformé notre crème en beurre et aussi en fromage. Avec la fromagerie Bechler dans le Lot, qui est un prestataire de qualité. Et donc derrière, ça fait des produits qui sont de qualité, avec un produit de qualité et des consommateurs de qualité.
Alors justement, par rapport à l'élargissement de cette gamme, comment vous choisissez justement l'extension de cette gamme, sur quels critères et avec qui ?
Alors on n'invente rien sur le développement de gamme. On s'adapte vraiment au marché, à ce qui se fait, à ce qui est tendance, même si on essaie de s'inscrire dans la durée. Donc notamment, là je parle du skir, par exemple Nature, qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a beaucoup plu auprès des consommateurs plus jeunes. Et après on peut aller sur des produits un peu plus niches, comme on appelle dans le métier, sur des crèmes dessert café qui vont plaire à plus des personnes plus âgées. Voilà, on s'adapte à tout type de consommateurs. Et c'est ça un peu notre force aussi, c'est de s'adapter sur le moment à la consommation.
Alors pour nos auditeurs aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver vos produits sur le territoire? Peut-être sans citer de marque de grande distribution, mais simplement nous dire où est-ce qu'ils peuvent se rendre. Et puis aussi, une deuxième question, ce sera un petit peu la place que vous prenez aujourd'hui dans les circuits courts, en particulier dans la restauration collective.
Alors nous, on peut nous trouver partout sur les Hautes-Pyrénées, c'était notre objectif, je ne vous cache pas. Donner l'opportunité aux consommateurs des Hautes-Pyrénées de consommer le lait des Hautes-Pyrénées, ça c'était le premier objectif. Donc on peut se vanter de se dire qu'on est relativement présent un peu partout. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est présent sur tout type de circuit de distribution. Ça peut être de la grande distribution, comme des magasins de producteurs de produits locaux. Mais voilà, on peut se vanter de ça.
La suite, c'était la restauration collective. Votre position par rapport à justement au circuit court et en particulier à la restauration collective.
Alors ça, c'est une très bonne question parce que du coup, nous, en termes de développement sur la restauration collective, on n'a pas de débouché pour l'instant. Parce que c'est assez complexe. Nous, ce qu'on aimerait, c'est le développer en cohérence avec ce qui se fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de label, malheureusement. Même si je pense que le label local suffirait tout simplement à pouvoir entrer dans les collectivités. Mais ça, c'est peut-être un travail à faire auprès des instances. Ça dépend pas de moi, malheureusement. Mais nous, on répondra présent quand il le faudra. Il n'y a pas de souci.
C'est peut-être aussi une question de prix, parce qu'on sait bien que dans la restauration collective, on a des politiques d'achat relativement agressives.
Alors oui, c'est une question de prix, mais comme je dis, ils ont quand même aussi des aides. Il y a des aides qui sont mises en place pour ce type de produit. Et je pense que c'est important de donner l'occasion aux enfants, aux élèves de pouvoir consommer des produits locaux et de qualité. Je pense que ça a un prix, mais ça vaut le coup.
Aujourd'hui, vous avez vos producteurs qui vont en mission dans certains magasins sur les Pyrénées. En tout cas, moi, je les ai vus. Est-ce que justement ce lien direct, il est important ?
Oui, voilà. Alors nous, ça aussi, c'est notre force. C'est-à-dire qu'on fait des animations dans les magasins et je pense qu'il n'y a pas meilleur commercial qu'un éleveur lui-même de parler de ses produits. Donc on s'est mis d'accord dans notre règlement intérieur de pouvoir donner l'opportunité aux consommateurs d'aller à la rencontre de nos éleveurs. Et ça marche plutôt bien parce que nos éleveurs jouent le jeu et y ont pris goût d'ailleurs. Et donc c'est là où c'est très intéressant d'avoir vraiment l'avis du terrain avec les consommateurs et on essaie de s'améliorer en fonction de ça.
On n'a pas parlé de la structuration, voir un petit peu comment autour de cette marque les éleveurs se sont structurés. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors oui, donc on a un président donc qui s'appelle Julien Errant du GAEC La Primavera à Gardère avec son frère Benjamin Errant. On a un vice-président Hervé Moïse qui est éleveur laitier aussi à Vidoux. On essaie de se structurer avec un comité de direction et moi qui suis directeur, seul salarié du Blanc des Pyrénées. Et ensuite, on prend des décisions et on fait des réunions tous les deux mois avec nos éleveurs, ce qui est important pour nous, où 90% de nos éleveurs sont présents en fonction des tâches qu'ils ont à faire chez eux. Et au bout de 8 ans, on a toujours ce souffle de pouvoir se développer et réfléchir ensemble.
Vous êtes organisé sur quelle forme juridique ? Vous êtes sous forme association, SAS, coopérative ?
Alors, on est sous forme de SAS, tout simplement parce qu'on est une société commerciale. On achète du lait cru et on revend des produits transformés. Et on revend du lait cru aussi. Donc, pour nous, c'était plus simple d'être en SAS, même si notre mode de fonctionnement en interne peut ressembler à une coopérative.
Oui, parce que la décision, par exemple, de la rémunération des éleveurs, c'est une décision, je suppose, collective.
C'est une décision collective de par les résultats qu'on sort chaque année sous forme d'assemblée générale, une assemblée générale par an. Et c'est là où on prend vraiment les grosses décisions. Ça a toujours été dans le bon sens et ça a été très positif.
Alors dans cette émission, on parle beaucoup de l'agriculture et du territoire. Et donc justement, c'est la question classique. Selon vous, comment et en quoi vous participez aujourd'hui au maintien de l'agriculture dans les Hautes-Pyrénées ?
Eh bien, on maintient tout simplement par la rémunération. Comme je vous dis, si aujourd'hui on n'arrive plus à rémunérer nos producteurs laitiers, il n'y aura plus de producteurs laitiers de 65. Et ça voudrait dire que tout simplement, on irait chercher le lait ailleurs. Et après, à l'échelle nationale, ça peut faire aussi la même, on peut avoir la même réflexion. Et je pense que c'est très important d'avoir le Blanc des Pyrénées pour essayer d'avoir quelques éleveurs laitiers qui puissent savoir fournir des produits 100% local.
Dans ce cadre-là, bon, j'ai écouté l'inauguration du salon hier par Monsieur Jean-Louis Cazobon, que tout le monde connaît bien dans le territoire, et qui parlait avec Madame Delga de souveraineté alimentaire. Donc, consommer local, c'est aussi justement défendre cette notion de souveraineté alimentaire.
Exactement. Mais comme je dis, voilà, nous on a une marque, le Blanc des Pyrénées. Les gens s'identifient au Blanc des Pyrénées, mais ils ont toujours en tête de se dire que voilà, l'acte d'achat fait qu'on aide nos producteurs. Et ça, il ne faut pas le perdre parce que plus ça va aller, plus ça va être le cas. Donc il faut consommer local.
Alors on va parler un petit peu de l'avenir, un petit peu des défis. Pour Blanc des Pyrénées, quels vont être vos prochains défis au travers de cette filière lait? Il y en a certains que vous subissez, comme le climat bien évidemment, mais il y a sans doute le prix et peut-être aussi le renouvellement des éleveurs.
Alors notre objectif, c'est surtout, comme je vous l'ai dit avant, c'est de vraiment utiliser tout le potentiel laitier qu'on a aujourd'hui en transformation, qu'on puisse rémunérer au maximum les éleveurs qui sont partis dès le départ avec le Blanc des Pyrénées avant de pouvoir intégrer de nouveaux volumes. Mais ça passe aussi par un développement de gamme, parce que comme je vous l'ai dit, nous on veut vraiment être ultra local, donc on n'a aucun intérêt d'aller se développer sur des régions, on va dire, autres que la nôtre. Donc nous, c'est vraiment développer la gamme de produits, donc continuer à sortir des nouveaux produits, se développer sur d'autres familles de produits.
Damien, une dernière question, plus personnelle. Quand vous voyez une brique Blanc des Pyrénées dans un magasin du département, qu'est-ce que cela représente pour vous et pour les éleveurs ?
De la fierté. C'est une fierté. Une fierté de se dire que c'est parti d'une idée. Elle est là, la brique est réelle. Les gens s'identifient énormément à cette brique de lait. Pour nous, c'est un pari réussi, plus que réussi, puisque derrière, ça a amené plein d'autres produits. Mais on est tous fiers et ils ont de quoi être fiers aussi, les éleveurs, de ce produit-là.
Voilà, donc chers auditeurs, soyez attentifs aux marques locales et en particulier lorsque vous voyez dans un magasin Blanc des Pyrénées, maintenant vous en savez beaucoup plus et vous savez que vous contribuez pleinement à l'extension de cette filière et aux revenus de nos producteurs laitiers sur le territoire. Damien, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite.
Merci à vous et achetez local.
Au revoir.
Eh bien, on va essayer de suivre ce bon conseil frappé du bon sens. Dans l'immédiat, on va poursuivre. Sachez que la chronique verte de Benoît Guillard de la semaine prochaine se prolongera également sur ce salon de l'agriculture régionale qui a eu lieu il y a une petite semaine à Tarbes. Voilà. Nous continuons en musique avant de retrouver le frère Martin de l'abbaye de Tournaille pour son coup de cœur en librairie.
Beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Toujours. corbeau au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie.
La symphonie des éclairs, Sao de Sagazan.
Présence à Super Bagnères 94.
Et à 12h20 sur Présence, c'est l'heure de vous souhaiter un excellent appétit. Si vous êtes à table, il est temps pour nous, dans l'immédiat, de retrouver le frère Martin de l'abbaye de Tournaille pour son coup de cœur en librairie. Il est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour à vous Anne-Rose et bonjour à vous chers auditeurs.
C'est reparti pour une nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui vous allez nous présenter Exercice spirituel bénédictin des îlots dans notre vie de tous les jours par Ansel Grün. C'est un livre idéal pour le carême puisque ça nous invite, ça nous encourage à s'exercer spirituellement.
Oui, je c'est pense que c'est une bonne idée pour nous aider à rentrer dans un temps de prière et qui est adapté, je trouve, à un grand temps liturgique. Il l'a prévu aussi pour le temps de l'Avent, le temps du carême, et on peut aussi le faire pendant le temps pascal, un moment où il y a un grand temps qu'on a devant soi, où par exemple, on se dit, ben voilà, sur un mois, par exemple, même cet été en vacances, vous voyez, on prend ce livre et c'est un trajet pour nous inviter à méditer, mais on revient en tête dessus, mais il y a des textes bibliques où il y a une méditation proposée et on peut aussi choisir chaque texte et le méditer.
Donc c'est un parcours en fait.
C'est un parcours, voilà.
Où on glane un peu chaque jour la nourriture qu'il nous faut voilà. Pour avancer.
Il y a un parcours avec une dynamique où on part vraiment de retravailler sa vie devant le Seigneur, comment être mieux avec lui et comment vivre vraiment avec le Seigneur et le servir. Voilà ce qu'il appelle dans ses exercices qui étaient inspirés d'un moine bénédictin de Montserrat, l'abbé Cisneros, qui a ensuite inspiré les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc Ansel Grün est revenu sur ce texte qui remet au goût du jour et les trois étapes dites de Cisneros, vous voyez avec un vocabulaire un peu d'époque, c'était purification, illumination et union. Donc voilà, on peut rentrer dans ce parcours du début jusqu'à la fin et vous avez la table des matières avec tous les textes bibliques et vous pouvez aussi choisir d'approfondir tel ou tel texte biblique.
L'objectif, c'est de se remettre en route avec le Seigneur.
Voilà, se remettre en route avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque texte biblique est présenté en trois volets, où Ansel Grün décortique un peu le texte pour nous aider dans la compréhension. Ensuite, il propose des pistes de méditation, où on peut rentrer et ne pas entrer, il faut se sentir libre. Hein. S'il y a une piste qui ne vous parle pas, vous la laissez tomber. Si une autre vous vient qui n'est pas dans le texte, vous l'approfondissez. Et ensuite, ce qui est intéressant, dans un troisième temps, il propose un petit exercice ou des choses qu'on peut faire dehors ou avec son corps, prendre une posture et tout. Et voilà, vous voyez aussi, si vous avez envie, de rentrer dans la troisième partie, qu'il appelle rituel, pour vivre un peu un prolongement concret avec le texte qu'il propose de méditer.
Donc ça, c'est quand même la particularité, c'est que cette proposition de faire quelque chose aussi avec son corps.
Voilà, c'est ça, oui. Il propose toujours quelque chose d'original. Mais ça, c'est Ansel Grün. C'est vraiment quelqu'un qui reçoit des gens, qui est thérapeute, et c'est vraiment sa façon d'être et de faire.
Alors, ce sont pas forcément des moments de prière. La méditation et la prière, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, en fait, c'est méditation et prière, quoi. C'est-à-dire, il nous invite à approfondir personnellement le texte biblique pour nous.
Voilà. Pour qui est fait ce livre ? Est-ce que c'est pour nous accompagner dans un moment difficile ? Est-ce qu'on peut le prendre un peu n'importe quand ? Est-ce qu'il y a un profil particulier qui peut être plus attiré ou inspiré par ces exercices spirituels bénédictins ?
Je pense qu'il y a, comme j'ai dit, deux entrées. Soit on a longtemps et on a envie de se lancer dans un parcours, et est intéressant de faire les étapes les unes après les autres, et si à un moment, pour nous aider à prier, à vivre quelque chose avec un texte biblique, eh bien, on regarde la table des matières, et selon le temps ou un texte qui, a priori, vous inspire, eh bien, vous rentrez dans le texte avec la présentation, la prière-méditation, et le rituel exercice pratique à faire, et puis voilà, vous vous laissez porter.
Ça peut être une alternative aussi, si on n'est pas très à l'aise ou très habile avec la prière quotidienne, si on ne sait pas très bien
voilà,
comment
oui.
s'y prendre, c'est un peu une méthode de prière, ou du
voilà.
moins ça...
Oui, et ça peut vous aider. Ensuite, si vous faites ça avec plusieurs textes bibliques, par exemple, avec la liturgie du jour, vous prenez la première lecture ou l'évangile, et vous pourrez le méditer de cette façon. Après, puis le Saint-Esprit vous inspirera, la prière va jaillir, et vous trouverez des points qui vous parlent.
Voilà, exercice spirituel bénédictin des îlots dans notre vie de tous les jours par Ansel Grün. C'est paru aux éditions Salvator. 130 pages, C'est quand même un bel ouvrage, au prix de 14,80 €. Et évidemment, cet ouvrage, eh bien, il est disponible à la librairie, au magasin de l'abbaye Notre-Dame de Tournai.
Tout à fait, c'est vraiment, je le propose et j'en parle justement aujourd'hui avec vous parce que ce livre est paru il y a quelques années, il est paru exactement en 2022 et je me rends compte que c'est une aide pour beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, et dans ce temps privilégié du carême, nous vous proposons de rentrer dans cet exercice spirituel bénédictin pour une fois.
Et en plus, c'est un joli livre avec une belle couverture assez printanière.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Merci beaucoup, frère Martin.
Merci à vous et à bientôt.
Dans 15 jours pour une nouvelle chronique littéraire.
Le printemps, effectivement, le soleil brille, en tout cas sur la ville de Lourdes avec un beau ciel bleu, cela fait plaisir. On continue en musique avant de retrouver le journal de la mi-journée.
Make a move. So enjoy yourself all afternoon. I'm putting my foot down and swing my thing back around and play my favorite tune. The dream that man and do. If you ain't gonna dance, free your mind, take a chance. What are you doing just hanging around? Shake your head, go downtown. I'm putting my foot down and swing my thing back around. And play my favorite tune. The dweedy dander dander.
À Tarbes et Lourdes, 96.
Bonjour à toutes et tous. Meurtre de Justine Veyrac, bientôt lors du procès, 3 ans et demi après la mort brutale de la jeune mère de 20 ans, originaire du Lot. Elle avait disparu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2022, après une soirée à Brive-la-Gaillarde. Son corps avait été retrouvé quelques jours plus tard. L'accusé, un jeune agriculteur passé aux aveux, sera jugé du 16 au 20 mars devant la cour d'assises de Corrèze. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Stationnement payant au gouffre de Padirac dans le Lot, la justice tranche. Le tribunal administratif de Toulouse a jugé illégale la décision de la commune de Padirac d'instaurer des parkings payants près du site touristique. Mis en place en l'été 2022, le dispositif obligeait les visiteurs à payer pour stationner. 3 euros pour les voitures et 10 euros pour les camping-cars. Selon la justice, la commune a ainsi perçu plus de 200 000 euros de manière illégale entre 2022 et 2024. Le gouffre reste cependant l'un des sites touristiques majeurs du département. Rugby. Alors que la France se prépare à affronter l'Angleterre à domicile, dans un autre registre mais dans le même sport, le bras de fer entre le Stade toulousain et la Ligue nationale de rugby bat son plein sur la question du salary cap. Le club toulousain conteste toujours la légalité du plafonnement de la masse salariale. Selon l'équipe, il demande notamment des changements sur la prise en compte des revenus versés par les partenaires aux joueurs ou encore les règles de transparence. Le club envisage un recours devant le Conseil d'État. De son côté, la Ligue assure que ce dispositif reste juridiquement solide et essentiel à l'équilibre du rugby français. L'ouverture de la pêche à la truite va faire des heureux. La saison débute dès demain partout en France pour les rivières de première catégorie. La pêche sera autorisée du lever au coucher du soleil jusqu'au 20 septembre. Selon les derniers chiffres, la pêche de loisirs rassemble environ 1,5 million d'adeptes dans l'Hexagone, encadrée par les associations locales du réseau Fédération Nationale de Pêche en France. Il est conseillé d'aller vérifier les fédérations départementales et leurs réseaux sociaux pour s'assurer de la bonne turbidité de l'eau, des averses étant prévues aujourd'hui. Puis nous voilà à une semaine de la Saint-Patrick, et Tarbes planifie une soirée celtique. La salle de concert La GESP organise le 20 mars un événement festif mêlant musique et animation. Au programme, violon irlandais et rock celtique. Le collectif breton composé de 19 musiciens sur scène sera la tête d'affiche. En première partie, le groupe toulousain Green and Rose ouvrira la soirée. Le jeu autour du traditionnel trèfle sera aussi proposé au public. Enfin, n'oubliez pas d'aller voter. Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche 15 mars partout en France. Les bureaux de vote sont généralement ouverts de 8h à 18h, parfois jusqu'à 20h dans les grandes villes. Les citoyens élisent leurs conseillers municipaux pour un mandat de 6 ans. Pour voter, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales et de se présenter pièce d'identité en main au bureau de vote. Le second tour, lui, est prévu dimanche prochain, le 22 mars. Un flash spécial municipal sera diffusé lundi matin.
Merci à Kevin Mouveau de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse d'avoir assuré pour nous tout au long de cette semaine les informations. Il est temps pour nous de retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois. Elle est aujourd'hui en compagnie de Sœur Geneviève. Nous allons parler bien du carême.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre. Nous sommes en temps de carême, un temps fort pour les chrétiens, souvent associé à l'effort, au partage, à la prière. Bon, mais que signifie vraiment le carême aujourd'hui ? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sœur Geneviève. Bonjour Sœur Geneviève.
Bonjour.
Sœur Geneviève, vous êtes sœur de la Charité de Nevers, en communauté à Lourdes, au service aussi du sanctuaire depuis déjà quelques années. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler simplement ce qu'est le carême, ce qu'il représente pour les chrétiens aujourd'hui ?
Le temps de carême, c'est tout simplement un exercice spirituel qui va nous préparer, nous chrétiens, à passer avec le Christ par sa mort et sa résurrection. En fait, autrement dit, c'est se remettre, ou se mettre, si on l'a oublié en route, sous le regard de Dieu, dans une attitude de confiance. Un Dieu Père qui nous aime, qui ne nous juge pas, qui ne juge pas nos apparences, qui ne juge pas ce que nous faisons, mais qui regarde notre cœur.
Alors justement, Sœur Geneviève, on entend souvent parler de jeûne ou d'effort personnel. Comment éviter que le carême ne devienne quelque chose de contraignant ou de culpabilisant ?
Alors je crois que tout simplement, c'est, je l'ai un peu dit déjà, hein, mais nous sommes invités à un changement de regard sur nous-mêmes, sur le monde, et nous mobiliser intérieurement pour avancer lucidement dans un monde qui aujourd'hui est en train de basculer. Vivre un jeûne, c'est aussi c'est se mettre en route, donc. C'est une marche pour la vie. C'est une marche vers la vie. C'est une marche d'espérance et une marche d'alliance. Et dans cette marche, nous sommes appelés à vivre un jeûne de consommation, mais ce n'est pas seulement une privation de nourriture, le jeûne, même si ce n'est pas exclu, bien sûr. Mais c'est un jeûne sur des éléments que nous allons choisir. Un. Alors, par exemple, le numérique, les achats, la manière de circuler, le transport. On choisit, on ne fait pas tout, sinon on ne fait rien. Alors, jeûner, ça va passer par trois points. Le premier point est très important. Je dirais que c'est ce qui englobe tout. C'est la reconnaissance. La reconnaissance qu'on a tout reçu. On a tout reçu de Dieu, qui donne sans compter, et qui nous invite à sa suite dans ce mouvement. La reconnaissance, ça passe aussi par la justice. C'est se concentrer sur le nécessaire pour partager, et non donner le superflu. Souvent, la veuve dans l'Évangile, elle a tout donné.
Même son nécessaire.
Même son nécessaire. Elle n'a pas donné le superflu. Et le troisième point par lequel le jeûner passe, c'est la libération du cœur. C'est placer sa confiance dans quelque chose de vraiment solide, dans quelqu'un qui doit être notre rocher. Ici à Lourdes, nous avons le rocher.
Alors justement, Geneviève, avant de passer au message de Lourdes, en quoi le carême est-il particulièrement un temps propice au partage ?
Tout simplement, en plus cette année, le carême commence le 18 février 58. Le 18 février 58, quelque chose se passe ici, à travers un souffle léger. Bernadette, voilà, elle est surprise. Et il y a des paroles extraordinaires qui vont se dérouler, qui vont se dire. Et aujourd'hui, cette fête de Bernadette, de Sainte Bernadette, marque le début du carême, et c'est pas rien.
Et oui, alors justement, Geneviève, venons plus à ce lieu qui est Lourdes et qui accueille chaque année des millions de pèlerins. Quel lien vous faites vous-même et que vous pouvez faire pour nos auditeurs entre le carême et le message de Lourdes? Quelques-unes des apparitions vous ont parlé particulièrement, je crois.
Voilà, alors la troisième apparition, la première, bon, je l'ai évoquée, c'est le bruit imperceptible. Je levais la tête et les arbres ne bougeaient pas. Voilà, l'esprit parle dans nos vies d'une manière. Et il va parler pendant ce carême, surtout cette année où nous vivons quand même des choses au niveau du monde. Ça nous fait sortir du monde. Et Lourdes, c'est le monde qui vient à nous. Donc, avec des mentalités différentes. Et à la troisième apparition, Marie va parler pour la première fois. C'est le 18 février. Ce que j'ai à vous dire, dira-t-elle, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. C'est-à-dire que il faut penser que les apparitions, l'Évangile, notre vie chrétienne, elle n'est pas dans la tête, dans des choses qu'on apprend, qu'on répète. Voilà. Elle est dans le cœur. Un prêtre disait un jour dans une homélie, l'Évangile est une affaire de cœur. Marie va faire rentrer Bernadette dans une relation qui est de l'ordre de l'amour. Elle est d'emblée invitée à ouvrir les profondeurs de son cœur à ce message d'amour. Elle est méprisée, et Marie lui dira, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Bernadette est stupéfaite, il y a tout ce respect de Dieu pour nous. Bernadette qui est méprisée, qui est montrée du doigt, qui est dans la misère, elle se sent respectée. On lui dit « vous », elle me disait « vous ». Elle était ahurie, elle me souriait. Elle fait l'expérience d'être respectée et aimée telle qu'elle est. Et je crois que pour nous, ce message de Lourdes, dans ce temps de carême aussi, c'est reprendre conscience que nous sommes tous dignes aux yeux de Dieu, parce que chacun est aimé par lui, tel qu'il est, et pas tel que nous rêvons. Voilà.
Peut-être un autre message lors d'une autre apparition, vous pourriez nous dire avant de conclure notre entretien?
Oui, alors, à cette même apparition, j'y reviens, parce que celle du 18 février, en plus qui est notre début de carême, donc peut nous aider à cheminer pendant ces 40 jours. Si je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, on peut être surprise. Enfin, moi, je sais que j'ai mis longtemps avant d'entendre cette... et que je ne la disais pas. Parce que comme ça, ça ne me gênait pas trop. Mais Jésus nous invite à découvrir le royaume, à découvrir dans le monde tel qu'il est, un autre monde. Ce monde de l'amour, ce monde du partage, ce monde de la solidarité. Et regarder le Christ dans ce temps de carême, c'est aussi comme lui, prendre cette attitude. Il va discerner tout d'un coup, au milieu des foules, une femme qui est en train de conduire son fils au cimetière. Il va voir une personne au milieu d'une foule. Il va sentir une personne qui le touche alors qu'il est au milieu d'une foule. Et il va entendre le cri d'un père qui lui dit « Mon fils est au dernier moment de sa vie, il va mourir, viens chez moi, viens le guérir. » Et le Christ nous montre que notre vie, ce bonheur de l'autre monde, il est aujourd'hui, mais dans les petites choses. Dans le regard, sortir de la multitude, sortir de... C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de dire tout ce qui se fait, tout ce qu'on fait de bien, parce qu'on en fait. Mais le regard sur le plus petit, le regard sur le plus pauvre, et je crois que c'est ce qui se vit à Lourdes.
Pour conclure, Sœur Geneviève, quel souhait aimeriez-vous formuler pour nos auditeurs en ce temps de carême ?
Alors, moi, en ce temps de carême, j'ai envie de dire deux choses. Le sanctuaire Lourdes, c'est un lieu de solidarité et de bienveillance. De nombreux bénévoles viennent tout au long de l'année, des quatre coins du monde. Ils viennent donner gratuitement de leur temps. Ils laissent leur famille, leur travail. Et il y a deux gestes symboliques à Lourdes, à mon avis, qui peuvent nous aider pendant ce temps de carême, qui symbolisent un chemin de guérison intérieure. D'une part, c'est le geste de l'eau qui est proposé à Lourdes. Et puis, il y a le sacrement de la réconciliation. Et dans ces deux gestes, on est plongé dans cette miséricorde de Dieu. Alors, je dirais que, tout simplement, c'est pas faire de grandes choses pendant le carême, c'est pas se mortifier, se flageller, tomber dans la rue parce qu'on a trop jeûné, on a trop pas assez mangé. Mais le carême, c'est avoir l'attention dans la journée. Pour moi, c'est pas le plus facile, d'ailleurs. D'avoir le regard, comme Jésus, sur les petits, sur les pauvres, sur ceux qui ont soif d'autre chose. Et chaque jour, rendre quelqu'un heureux. Et le soir, avant de dormir, j'ai rendu quelqu'un heureux aujourd'hui. Est-ce que j'ai allumé cette lumière dans le cœur de quelqu'un? Et particulièrement des plus démunis et des plus vulnérables.
Merci, Sœur Geneviève, à la fois pour votre témoignage, pour vos paroles éclairantes, et on se dit à une prochaine fois.
À une prochaine fois.
Sœur Geneviève était au micro de Anne Deloy, une chronique solidaire que vous pouvez retrouver avec toutes les autres de cette émission du Présence Midi sur le site de la radio, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants avec l'auteur qui a mis à l'honneur nos belles Pyrénées. Aujourd'hui, ce sera Anne Lister. À tout de suite.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Te lo puedo negar, no sé.
Mariale, 96.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Anne Lister. Anne Lister est une jeune Anglaise qui a hérité à 35 ans d'une propriété familiale qui lui assure des revenus suffisants pour vivre sans souci le reste de sa vie. Sportive, passionnée de voyage et de montagne, excentrique, femme libre, elle s'installe à Paris, visite plusieurs pays européens, puis séjourne dans les Pyrénées à l'été 1830. Elle fait l'ascension du Mont Perdu, 3348 mètres, par la brèche de Roland, devenant ainsi la première femme à atteindre ce sommet. Elle revient dans les Pyrénées en 1838 avec son amie Anne Walker, qui doit séjourner à Lucin-Sauveur pour sa santé. Elle décide de conquérir le Vignemal, 3298 mètres, cime encore inviolée et convoitise de nombreux touristes fortunés qui passent l'été dans les stations thermales à la mode. Le vainqueur du Vignemal laisserait son nom à la postérité puisque c'est le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Elle engage Henri Cazot, l'un des meilleurs guides de la région, qui avait déjà fait une reconnaissance et sûrement le sommet. Mais Miss Lister n'est pas la seule à rêver de conquête. Elle apprend que Joseph Ney, fils du célèbre maréchal Ney, prince de la Moscova, vise lui aussi le sommet. Il a réservé Cazot et son équipe de guides. Nous sommes le 6 août à Gavarnie. Malgré un temps certain, Anne Lister décide de partir sur le champ avec Cazot et les guides Guillambé, Charles et Sajousse. Après une courte nuit à la cabane de Saouassat de Bat en vallée d'Ossou, la petite troupe foule le sommet le lendemain à 13h. Conformément à la tradition, Miss Lister laisse au sommet sa carte de visite dans une bouteille protégée par une petite enceinte de pierre.
De retour le lendemain à Gavarnie, elle retrouve son amie et partent toutes deux en Espagne. Quatre jours après, Joseph naît, son frère Edgar et les guides emmenés par Caso arrivent eux aussi au sommet. Mais l'un des guides, envoyé en avant, fait discrètement disparaître la bouteille contenant la carte de visite laissée au sommet par Anne Lister. Et Caso affirme au prince de la Moscova que Lady Lister a abandonné en cours de route et qu'il est donc le vainqueur. Ney s'empresse de faire un compte-rendu de son exploit et de le diffuser largement. Anne Lister apprend l'imposture à son retour et, furieuse, va consulter un homme de loi à Tarbes. Demande à Caso de révéler la vérité devant témoins, ce qu'il accepte, arguant que les guides n'ont que la saison d'été pour gagner leurs revenus de l'année. Nous quittâmes Gavarnie à 7h moins le quart, toujours par le brouillard, et nous fûmes à la cabane de sa soit de Batte à 8h. Caso, c'est le beau-frère de Charles, y était arrivé juste avant nous en venant directement de Gèdre. Nous les avions aperçus de l'autre côté du Gave, alors que nous montions à Gavarnie. J'avais apporté quelques provisions que j'avais mises dans un sac acheté à Paris pour y mettre ce dont j'avais besoin la nuit, et aussi deux biscuits dans ma blouse, deux œufs durs dans la poche du gilet de Charles et une grande gourde suisse achetée à Chamonix que j'avais remplie de brandy acheté chez le pharmacien. Charles la portait suspendue à son épaule. Les guides avaient une livre de pain, blanc comme le mien, une gourde de vin blanc pour les bergers, une livre de fromage, et j'y avais ajouté une bouteille de la meilleure eau de vie, la même que celle que j'avais achetée pour moi-même et que notre pharmacien vendait. À l'ouest, au-dessous de nous, il y avait le beau glacier du Vignemale, au pied duquel se trouve le début de la vallée d'Aussoux, et à une grande distance, la belle chaîne du Marboré et du Mont-Perdu. À l'est, il y avait la chaîne des montagnes espagnoles. Nous avions aperçu Panticouse au cours de l'ascension, mais les nuages couvraient maintenant tout l'horizon, si bien que nous ne pouvions distinguer le port de Panticouse et celui du Marcodo. Au nord, il y avait les montagnes françaises que l'on apercevait à travers une brume qui les dominait. Au sud, les vallées espagnoles étaient dans une mer de nuages. La cime culminante du Vignemale avait la forme d'un plateau d'une dizaine de mètres de long et de 3 mètres de large, mais elle n'était pas plate, elle était toute bosselée. Nous mîmes nos noms dans la bouteille et nous commençâmes de descendre à 2h10. À 2h25, nous étions à nouveau sur la neige, en bas de la première neige, puis sur la neige à nouveau, là où nous avions enlevé les crampons. L'après-midi était ensoleillé et néanmoins l'air était très agréable. Je mangeais un peu de pain que j'arrosais de brandy et d'eau. Nous nous arrêtâmes à nouveau à 4h30 pour donner à notre Espagnol un peu de pain et de vin et nous lui donnâmes nos bagages à porter jusqu'à ce qu'il nous quitte. L'Espagnol nous quitta au Cuella de Lourdes à 7h20. À 8h05, nous étions de retour à la cabane de Saoussat de Batte. Nous étions fatigués, mais j'aurais bien poussé jusqu'à Gavarnie. Cependant, Charles nous dit qu'il était dangereux de s'engager sur la route dans l'obscurité. Je bus une bonne quantité de lait bouilli et je ne mangeai qu'une ou deux bouchées de pain. Mes vêtements étaient trempés en raison du brouillard que nous avions traversé au col. J'enveloppai mes affaires dans une pèlerine et je m'étendis aux environs de 9h. Les autres étaient assis et devisaient en buvant leur soupe au lait. Je dormis de 9h à 11h et nous quittâmes la cabane à 11h15. Casos partant de son côté pour aller à Gèdre et nous allant sur la droite vers Gavarnie. Nous y fûmes à 1h15. On me donna un peu d'eau chaude pour éviter le frisson que j'aurais éprouvé en buvant de l'eau froide. Je bus un verre, je brossai mes vêtements, me lavai les pieds, je me suis mis au lit à 2h30. Il était confortable et je dormais bien. À travers les mots, le regard, inspiré par nos belles montagnes des Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Anne Lister. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the
look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Sur Présence, Just the Two of Us. C'est avec cette très belle chanson que se termine ce Présence Midi, ce vendredi 13 mars, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. C'est là-dessus que je vous quitte, sans oublier de vous rappeler l'heure de la prière, bien sûr, sur Présence à 15h30 en direct de la grotte de Massabielle, la méditation du chapelet pour toutes nos intentions auprès de la Vierge Marie. Très très belle journée, très bon week-end à l'écoute des programmes de Présence.
Assurance 93.1
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'unité des personnes avec Dieu, avec l'Église, au centre d'un discours de Léon XIV.